Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Un an de prison, 3750 euros d'amende, c'est le tarif susceptible d'être appliqué en France aux consommateurs de cannabis. La loi date de 1970, elle a été plus ou moins sévèrement appliquée depuis cette date, sans vraiment convaincre de son efficacité. Fumer un joint a fini par devenir banal. Un Français majeur sur 10 le ferait au moins une fois par an, selon les statistiques officielles. D'où le débat récurrent sur l'évolution de la législation. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle plaident aujourd'hui en faveur d'une légalisation de l'usage du cannabis. Ils mettent en avant plusieurs bénéfices attendus, un meilleur contrôle de la qualité des produits, un assèchement des trafics et des rentrées budgétaires conséquentes. Ceux qui s'y opposent considèrent que la prohibition limite malgré tout le nombre d'usagers, que la légalisation du cannabis se traduirait par un transfert de consommation vers des drogues plus nocives et qu'elle n'aurait donc aucun impact sur le niveau de criminalité. Alors à ce titre, il sera sans doute utile d'observer, si le projet va jusqu'à son terme, les effets de la légalisation du cannabis au Canada, deuxième pays à s'engager sur cette voie après l'Uruguay, quand d'autres ont plutôt fait le choix d'une dépénalisation. Alors faut-il légaliser l'usage du cannabis ? C'est le débat que nous posons ce soir et ce, je vous le rappelle, depuis lundi dans le cadre d'une semaine spéciale que nous consacrons à des sujets de société qui sont dans le débat présidentiel, en tout cas qui sont dans les programmes des candidats à la présidentielle, même si ce sont des débats qui datent depuis déjà un certain nombre d'années. On a déjà évoqué à ce micro la question de l'âge légal du départ à la retraite, de la fin de vie de l'euthanasie, du retour d'un service national, voire d'un service militaire, et donc ce soir la question de la légalisation du cannabis. Et pour en discuter, deux invités. Emma Wiewiórka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital Maison Blanche à Paris. Vous avez signé, enfin même co-signé aux éditions Odile Jacob, c'est un livre qui date de 2014, La légalisation des drogues, une mesure de salut public, ouvrage donc que vous avez écrit avec Michel Hautefeuille. Et pour discuter avec vous, Étienne Appert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat et vous êtes l'ancien président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, poste que vous avez occupé de 2007 à 2012 sous le précédent quinquennat. Alors avant d'entrer dans le débat, je voudrais d'abord savoir si vous considérez qu'aujourd'hui il y a un consensus, ou en tout cas un consensus scientifique, sur la question de la nocivité du cannabis. Quand on va sur le site Drogue Info Service, on voit un certain nombre d'effets qui sont mentionnés, comme la baisse de la vigilance, la limitation des capacités à apprendre, l'anxiété, la paranoïa, les troubles mentaux, et ce, en particulier, lorsque cette consommation a lieu chez de jeunes gens, chez des adolescents. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait consensus, Emma Wiewiórka?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, on commence vraiment à bien connaître les effets négatifs de la consommation de cannabis. Alors, vous en avez mentionné certains.
J'ai pas tout dit, parce que la liste est longue.
Il y en a beaucoup, bien sûr. Il y a le fait que ça favorise les cancers, de multiples cancers, au même titre que le tabac, des maladies cardiovasculaires. Que c'est un facteur de risque de développer certaines maladies psychiatriques comme la schizophrénie, par exemple. Et puis que l'un des risques, c'est aussi de développer une dépendance, parce qu'il y a des usagers qui ont des usages problématiques, et certains qui sont exposés au risque de développer une dépendance. Plus on commence tôt, d'ailleurs, plus on a ce risque de développer une dépendance au cannabis. Donc, oui, les effets. Il y a aussi les accidents de la voie publique qui sont responsables. Le cannabis est responsable d'un certain nombre d'accidents de la voie publique. Les effets négatifs sont connus. Les effets positifs aussi sont connus et utilisés dans un certain nombre de pays. Des effets dans certaines maladies, surtout pour lutter contre la douleur et d'autres conséquences de maladies comme le sida.
Donc on est d'accord que le débat, en tout cas, ne porte pas sur la question de savoir si le cannabis est nocif ou pas, mais plutôt sur la meilleure façon peut-être de gérer la nocivité de ce produit, comme ça peut l'être d'ailleurs sur d'autres consommations. Je pense par exemple au tabac ou je pense par exemple à l'alcool. Étienne Appert.
Alors je crois qu'il y a un progrès dans les débats. Ce progrès, il est né de la volonté des gouvernements successifs de fonder le débat sur des preuves scientifiques, sur des bases objectivables des études. Et on ne parle plus de drogue dure, drogue douce, ça n'a plus aucun sens de parler de ça dans la mesure où, en fait, pour les jeunes, ça sera, les jeunes cerveaux, je parle, ça sera plutôt quelque chose de très très nocif. Et peut-être pour des personnes plus âgées, ça sera moins difficile, mais c'est la même chose pour l'alcool. On le sait maintenant, et c'est pour ça qu'il faut avoir sans doute des préoccupations particulières pour des catégories de personnes ou des situations particulières sur la route, au travail, et puis peut-être effectivement à l'égard des jeunes, parce que c'est là où c'est complètement documenté.
Un de vos collègues, Emma Wiewiórka, Michel Lejoyeux, qui est psychiatre addictologue, expliquait dans Le Monde, c'était il y a quelques semaines de cela, c'est tout récent, qu'on manquait peut-être encore aujourd'hui d'études épidémiologiques précises sur le nombre de personnes dépendantes. Il dit cette observation est la première étape de toute décision politique. Est-ce qu'on manque encore d'études qui seraient suffisamment poussées pour avoir, en tout cas, un maximum d'informations permettant de prendre les meilleures décisions politiques possibles?
Je pense qu'on commence, enfin, on a une vision de la consommation, des usages problématiques en France et dans le monde quand même. Alors peut-être qu'on peut approfondir, hein, c'est possible. Maintenant, je ne pense pas. Je pense que ce qui est important, c'est que la nocivité du cannabis ne justifie pas et n'a jamais justifié la nocivité de la prohibition. À mon avis en tout cas, et que ce qui aurait dû rester un problème de santé publique, ce qui est déjà pas mal parce qu'un problème de santé publique, faut s'en occuper, est devenu un problème de société. Enfin, on en a fait un problème de société quand il aurait dû rester un problème de santé publique dont on a négligé de s'occuper, je pense que le...
Alors, justement, de ce point de vue-là, en termes de santé publique, moi j'ai cherché un petit peu les campagnes de prévention qui avaient pu être faites sur ce sujet. Alors, quand on va sur le site de Santé publique France, qui est le nouveau nom de l'INPES, on trouve une mise à jour d'affiches qui sont aujourd'hui diffusées dans les lycées. Alors, c'est une affiche écrite en noir sur fond jaune avec une phrase de Charles Baudelaire: ce que le hashish te donne d'un côté, il te le retire de l'autre. Il te donne le pouvoir de l'imagination, mais t'enlève la possibilité d'en profiter. De mémoire et de par mes recherches, je n'ai pas trouvé, par exemple, de spot télévisé informant des dangers que pourrait représenter le cannabis. Est-ce qu'on a quand même aujourd'hui en France peut-être une politique de prévention qui serait un peu trop faible en la matière? Est-ce que c'est pas lié justement à la pénalisation de ce produit, Étienne Appert?
Alors, je crois que c'est pas lié. Je crois que si vous aviez cherché plus avant dans le temps, vous auriez remarqué qu'il y avait eu des campagnes télévisées et des campagnes d'affiches entre 2007 et 2012 qui concernaient toutes les substances et pas simplement le cannabis.
Elles ne m'ont pas marqué. C'est-à-dire autant un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts, autant fumez-tu, ça c'est des choses qui marquent, franchement. C'est vrai que une campagne, pour qu'elle réussisse, il faut aussi qu'on s'en souvienne. J'avoue que celle-là, je m'en souviens pas du coup.
Alors, c'est sans doute un bon argument. Néanmoins, on a essayé d'expliquer beaucoup pendant ces dernières années ce qu'était le cannabis aux parents, aux enfants. Et la campagne qui a eu lieu de mémoire, hein, entre 2007 et 2012, c'était notamment d'expliquer aux parents qu'ils n'étaient pas seuls par rapport à la question de l'addiction éventuelle de leurs enfants et qu'ils pouvaient en parler à tous les praticiens qui s'occupait de cela. Mais la crise économique est intervenue et je ne veux pas émettre de critiques pour les gens qui m'ont succédé, mais c'est vrai que les budgets ont été diminués en matière de prévention. Et c'est ça qui a été caractéristique de ces dernières années. Il n'y a pas eu beaucoup de répression, mais il n'y a pas eu beaucoup non plus de prévention. Et on peut se poser la question de savoir si on n'est pas dans un étiage qui fait que cette politique de lutte contre les drogues est devenue un peu une partie oubliée du dispositif. On peut s'entendre pour dire que, quel que soit le choix, il faut avoir un certain nombre de moyens. Que ce soit des moyens pour la recherche, des moyens pour le soin, si on maintient un système de prohibition, des moyens pour la prohibition. Mais le nini est terrible parce que les nouvelles générations arrivent sans arrêt, c'est heureux. Et si elles n'entendent pas des messages, des préventions, si elles n'ont pas des messages clairs sur le plan légal, ben, ils vont bien évidemment consommer sans se poser de questions. Ça se voit avec le tabac. chaque fois que on arrête de mener des campagnes de prévention en matière de tabac, la consommation augmente. Et là, ça se voit également pour les drogues illicites, puisque je vous rappellerai quand même qu'on était à 41% de jeunes qui avaient expérimenté le cannabis dans les années 2011 et qu'on est actuellement à 48%. Et je crains que ce non-investissement ait des conséquences.
Donc vous, vous dites la pénalisation et la loi de 1970, elle contient plutôt la consommation de cannabis qui serait plus importante, si je vous suis, si on était dans une phase de légalisation. Emma Wieworka, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Enfin, je sais que vous ne l'êtes pas.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit.
C'est pas tout à fait ce que vous avez dit, alors pardonnez-moi.
J'ai dit simplement qu'on avait investi entre 2007 et 2012 à la fois la prévention et la prohibition. Et ce que je dis, c'est que si on n'investit pas sur les deux champs, mais je parle aussi de la prévention, on se retrouve avec les augmentations actuelles.
Alors, je vais vous poser la question autrement, Emma Wieworka. Si on investit la prévention et la légalisation, est-ce qu'on peut attendre d'autres effets que ceux décrits par Étienne Appert?
Clairement, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à lutter contre les consommateurs et les vendeurs, d'ailleurs, de cannabis, et que ça a été perdu pour lutter contre le cannabis lui-même. Clairement, la loi de 70 a réussi à criminaliser beaucoup de gens et à faire en sorte que beaucoup de gens soient derrière les barreaux, alors que ce soit les dealers, et que il y a beaucoup d'interpellations aussi des usagers, qui, enfin, elles ont été multipliées par 60.
Donc on a 170 000 chaque année,
ouais, c'est
à
ça.
Peu près sur ce chiffre-là.
On a réussi à criminaliser les gens, mais pendant ce temps-là, le cannabis, lui, a prospéré. Et je pense qu'il a beaucoup bénéficié du fait qu'on se concentre sur le fait de matraquer les citoyens plutôt que de lutter contre la consommation de cannabis.
Est-ce que ça veut dire pour autant que légaliser la consommation de cannabis aurait pour effet de faire baisser cette consommation? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, par exemple?
Elle peut nous en donner les moyens, en tout cas, notamment. Parce qu'elle nous permet de contrôler le marché qui actuellement est libre et totalement libéralisé. L'un des problèmes les plus importants, à mon avis, c'est qu'en voulant contrôler le comportement de l'ensemble de la population et la contraindre à l'abstinence, on a sacrifié la jeunesse, qui est quand même la partie de la population qu'on est censé protéger et qui, du coup, a un libre accès à la drogue. Et le cannabis a un libre accès à la jeunesse aujourd'hui, alors qu'on pourrait avoir les moyens légaux de leur barrer, de barrer l'accès de la drogue à la jeunesse. Et je pense que c'est clairement un moyen de prévention important que de retarder les premières consommations et de faire en sorte que les drogues ne soient plus vendues dans les écoles, par exemple.
Et cette prévention, elle serait plus facile à mener si le cannabis était légalisé?
Ah bah la prohibition est un frein énorme. Vous parliez des campagnes de prévention, elles existent maintenant, elles sont balbutiantes par rapport aux campagnes menées pour les autres drogues, clairement. En termes de moyens, on a perdu des moyens, et puis aussi on a eu une politique globalement malveillante à l'égard des consommateurs et de négligence. On a beaucoup négligé aussi les consommateurs.
Est-ce que, Étienne Appert, on a les moyens aujourd'hui, enfin les moyens justement d'observation, par exemple, de ce qui se passe dans d'autres pays qui sont allés sur la voie de la légalisation, de faire le constat d'un impact sur la consommation, alors en l'occurrence de cannabis, lorsque cette consommation est légalisée?
Alors, il est trop tôt pour le dire, parce qu'en Uruguay, il n'y a pas d'outils statistiques, donc c'est très simple, on ne sait pas du tout quelle est la situation, et aux États-Unis, c'est très balbutiant, et encore en voie de développement.
Il faut préciser qu'aux États-Unis, certains États ont légalisé, mais au niveau fédéral, ça ne l'est pas.
Au niveau fédéral, ça ne l'est pas, et simplement, ce qu'on dit, l'organisme qui correspond un peu à la MIT ou à l'Observatoire français des drogues, le NAIDA, a une préoccupation, c'est effectivement l'accès des jeunes aux drogues au pur. Et d'ailleurs, je remarque que ce débat intéresse beaucoup les journalistes quand on parle du cannabis, mais en réalité la régulation, c'est ce qui a été l'objet du livre de Madame Wieworka, c'est toutes les drogues, savoir comment, quelle place on leur laisse dans la société et comment on régule leur accès. Moi, je crois qu'il y a des fantasmes, alors pardonnez-moi, mais c'est des fantasmes. Les médecins ont des fantasmes, comme les magistrats et les policiers en ont.
Alors, quels sont les vôtres en tant que magistrat?
Le fantasme du médecin, c'est de croire que l'argent qu'on consacre à l'application de la loi Si on supprimait la loi et si on supprimait la prohibition, irait ipso facto dans la poche des médecins qui pourraient mieux soigner, mieux prévenir. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et les magistrats se disent quelquefois que s'ils n'étaient pas là, on peut pas faire confiance aux médecins, parce que le taux d'échec des médecins en matière de traitement doit être au moins équivalent aux échecs en matière de traitement judiciaire. Je veux dire, il faut être humble aussi dans ce que nous faisons les uns et les autres. Et la difficulté de prendre en charge des usagers de drogue est très très importante pour les médecins comme pour les magistrats. On a un souci en commun. Il se trouve que il faut se rappeler des époques dans lesquelles la prohibition n'existait pas et que c'est la multiplication des usages et l'absence de prohibition qui a conduit à adopter la prohibition. Les conventions de Shanghai, la première convention en matière de drogue, c'est les conventions de Shanghai après la guerre de l'opium, parce que la Chine était en train de crever littéralement de la consommation de l'opium qui était favorisée par la puissance anglaise. Et avant la loi de 70, on avait des consommations d'héroïne très importantes dans ce pays. Et la seule idée qui est venue aux uns et aux autres, c'est comment on fait quand on veut éviter un comportement nocif. Eh ben, on utilise la loi pénale. Alors, on peut nous raconter ce qu'on veut en disant, mais oui, il y a d'autres choses. Je me rappelle qu'en matière de prévention de la sécurité routière, on pensait que les simples discours allaient éviter des morts sur la route. Puis on s'est rendu compte qu'il suffisait de mettre des radars sur la route pour diminuer de moitié le nombre de morts. Et on s'est aperçu que l'arme répressive, j'ose encore utiliser ce terme, était plus efficace que des discours.
Emma Vivorka.
Je ne sais pas à quoi répondre particulièrement, parce que je pense que l'idée, je pense que l'argument qui marque les gens, c'est pas la question de l'argent en réalité, même si l'argument économique compte et que l'argent qu'on aura économisé à ne pas courir après les gens et leur taper dessus, on pourra l'utiliser autrement, y compris l'argent qu'on pourra avoir via les taxes qu'on pourra prélever sur le commerce. Mais en réalité, d'ailleurs, aux États-Unis, ils ont investi, l'argent, ils ont routé les bénéfices du commerce du cannabis vers le sanitaire, mais aussi vers d'autres, vers l'éducation, par exemple, la construction d'écoles, ce genre de choses. Je pense que ce qui est important, c'est que la pénalisation, le fait d'essayer de contrôler le comportement. Je pense que l'argument qui compte vraiment, c'est la liberté. En fait, c'est cet argument-là qui a été utilisé aux États-Unis par les lobbyistes de la légalisation. C'est la question des droits de l'homme et du citoyen et de la liberté et du fait que ce n'est pas une bonne chose d'instrumentaliser les individus, même si c'est au nom de l'amélioration de la santé publique. Et surtout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de punir les gens.
Donc, au nom de la liberté, de question de liberté individuelle, il faut légaliser. Mais ça veut dire que vous poussez cette libéralisation jusqu'où ? Est-ce que c'est une libéralisation totale ou bien est-ce que c'est une légalisation qui serait quand même encadrée avec des lieux de vente officiels, avec peut-être un contrôle sur les prix, sur la qualité des produits ? Quelle est pour vous la bonne voie à suivre en la matière ?
Je pense que ce qui est important, c'est d'une part d'arrêter de réprimer les gens. Et quand je dis les gens, c'est les consommateurs, mais également les vendeurs, parce que on a, en créant un marché illégal, on a créé un conflit et une situation un peu de guerre civile dans notre pays, d'insécurité. Donc l'idée, c'est que reprendre le contrôle de ce marché, c'est remettre de la loi là où il y en a pas. Et de prendre ses responsabilités justement face à une situation à la fois de violence et de laxisme où on accepte que la drogue soit libre comme l'air et que les consommateurs soient complètement démunis face à des produits qui sont potentiellement dangereux.
Alors, reprendre le contrôle du marché, c'est vrai que c'est quand même un argument qui est important et qui est intéressant, Étienne Appert. Si on considère que en légalisant le cannabis, mais en contrôlant sa vente, en le faisant vendre dans des officines spécialisées ou en pharmacie ou pourquoi pas chez des buralistes, avec des produits qui seraient eux aussi contrôlés et dont on limiterait peut-être la nocivité, ce serait aussi une façon, sur le plan sanitaire quand même, d'avoir une vraie politique de santé en la matière, puisqu'on sait très bien que les gens, de toute manière, quelle que soit finalement la législation, vont continuer à fumer du cannabis.
Mais vous savez, l'argument qui consiste à dire la prohibition a échoué, on peut le répéter à l'envi, mais si on compare par exemple les consommations qui sont légales, légalisées mais contrôlées du type tabac ou alcool, et celles qui sont interdites, en tout cas dans notre pays, mais c'est le cas sur 99% des pays qui pratiquent la prohibition, on se rend compte de quoi ? Le nombre de consommateurs réguliers de tabac, c'est 13 millions, selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Le chiffre des consommateurs réguliers d'alcool, c'est 9 millions. Le chiffre des consommateurs réguliers de cannabis, c'est 700 000. Donc on voit qu'il y a une différence très très importante entre un produit qui est nocif, mais autorisé et contrôlé, et un produit qui ne l'est pas. La prohibition, elle réussit. Elle réussit peut-être à un prix on conteste, en disant, en termes de liberté, en termes de malheur pour les trafiquants et les usagers, mais il se trouve que la prohibition, ça fonctionne. Ensuite, il faut régler quand même deux, trois questions un peu ennuyeuses. On l'a dit tout à l'heure, on est d'accord, le cannabis c'est mauvais, c'est notamment mauvais pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait du marché contrôlé pour les mineurs ? Il se trouve que c'est la majorité des consommateurs. Alors, moi j'aimerais bien qu'on me dise, à supposer qu'on légalise, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ? Alors on va nous dire, les magasins qui seront autorisés à vendre du cannabis ou une autre drogue n'en vendront pas aux jeunes. Mais donc il y aura un marché noir à destination des jeunes. Donc à nouveau, il faudra lutter contre ce marché noir. Et puis dites, le tabac, parce qu'on sait très très bien comment fonctionne un marché contrôlé. C'est le marché du tabac. Le marché du tabac, il rapporte 13 milliards, je crois, à la France. J'en tire aucune gloire. Je trouve que le tabac devrait être interdit. Vous voyez, je suis conséquent dans mes choix prohibitionnistes. Mais il y a 1 milliard qui échappe aux taxes et qui sont vendus au terme de la contrebande. Et là, on voit bien qu'il est très difficile, ne serait-ce que d'avoir un marché pour les majeurs qui serait autorisé et un marché pour les mineurs qui serait toujours interdit. Encore une fois, parmi les 700 000 consommateurs quotidiens, c'est entre 16 et 25 ans qu'on trouve la majorité de ces consommateurs. Donc tant qu'on n'a pas réglé cette situation, c'est une vue de l'esprit de penser qu'on va réussir à organiser un marché et à régler tous les problèmes.
Alors faut-il légaliser l'usage du cannabis ? C'est la question qui nous occupe ce soir avec Étienne Appert, qui est l'ancien président de la mission interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, et Emma Wieworka, qui est psychiatre et co-auteur d'un livre publié chez Odile Jacob, La légalisation des drogues, une mesure de salut public. Alors on navigue depuis tout à l'heure entre les questions sanitaires finalement et les questions de criminalité. Ces questions de criminalité, elles alimentent assez régulièrement la chronique médiatique, comme à travers ces coups de filet qui se veulent spectaculaires. Je ne sais pas s'ils sont totalement efficaces. Exemple, à Marseille, nous sommes en mai 2015, c'est un extrait d'un reportage de BFM TV.
À la police marseillaise, cette nuit, la discrétion sur l'opération était toujours de mise. Pourtant, le coup de filet est de grande envergure. Il s'est déroulé à l'aube, au cœur de la cité des Lauriers, là où le business de la drogue est l'un des plus lucratifs des quartiers nord. Du gérant au guetteur, plus de 20 personnes d'un vaste réseau de stupéfiants ont été interpellées. L'opération aurait également permis de mettre la main sur 30 kilos d'herbe et de résine et sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Le ministre de l'Intérieur a tenu à saluer la pugnacité des enquêteurs qui travaillent depuis plus d'un an sur ce dossier. En tout, près de 300 policiers ont été mobilisés, des agents de la brigade des stupéfiants, mais aussi des agents du RAID et des CRS. D'après la police judiciaire, 3 tonnes de cannabis sont importées chaque mois dans cette cité marseillaise pour être distribuées et vendues ensuite sur l'ensemble de la ville.
Alors Emma Vivorca, sur cette question, dans votre livre que vous avez co-signé avec Michel Hautefeuille, vous êtes donc favorable à cette légalisation, alors en l'occurrence, puisque ce soir on parle du cannabis, de celle du cannabis, en disant plutôt la légalisation que la dépénalisation. La dépénalisation, ça serait le fait de ne plus mettre la consommation de cannabis sous, de ne plus en faire un délit pénal, mais d'en faire par exemple une contravention, même si peut-être que dans les faits, d'ailleurs aujourd'hui, on n'est pas si loin que ça de cette pratique. Et vous dites que notamment la légalisation par rapport au trafic aurait pour effet un effondrement des prix, donc une perte de revenus pour les trafiquants. Comment est-ce que vous arrivez à faire ce lien entre légalisation et finalement baisse des prix et donc des trafiquants qui n'auraient plus intérêt à trafiquer ce produit-là?
Alors, on ne dit pas vraiment un effondrement des prix. Enfin, ça ferait baisser le prix parce que le fait que, en créant un marché...
Parler d'une perte de revenus pour les trafiquants, illégal, pour qu'ils trafiquent, présenterait beaucoup moins, voire plus du tout d'intérêt.
Bah, en fait, si on prend le contrôle du marché, la contrebande, enfin le marché illégal disparaît, ou au moins en grande partie, parce qu'évidemment il en reste de la contrebande, ça existe pour le tabac par exemple, même si c'est minoritaire. Eux, ils sont dépossédés du marché. Et le prix, quant au prix du cannabis, là c'est justement où on peut le contrôler grâce aux taxes. Donc probablement qu'il deviendrait moins lucratif ce marché parce que le fait qu'il soit illégal booste l'attractivité et les revenus du marché pour les dealers. Alors quand je dis dealers, c'est les grands dealers, à un niveau quand même assez élevé. C'est pas la majorité des dealers qui ne gagnent pas tant que ça. Mais du coup le commerce serait certainement moins lucratif parce qu'une partie de son rendement vient du fait qu'il est illégal et des risques liés au métier en quelque sorte, et il faudrait compenser cette baisse de prix par les taxes pour que le produit ne devienne pas plus attractif, parce que en réalité la consommation, elle est essentiellement régulée par deux facteurs, c'est le prix, enfin l'accessibilité, le prix du produit, et l'opinion qu'ont les gens de la consommation de produits, donc de cannabis en l'occurrence.
Et, mais pardonnez-moi, Emma Vivorca, c'est-à-dire si vous légalisez le cannabis, donc il est vendu dans des officines qui sont contrôlées par l'État, avec un prix qui est régulé par des taxes, est-ce que vous ne risquez pas de proposer un produit qui sera plus cher que celui qu'on pourra trouver auprès des traditionnels trafiquants de drogue?
Ah bah, il faut faire attention à ne pas le proposer trop cher, en effet, sinon ce sera plus intéressant pour le consommateur d'aller vers le marché noir.
Étienne Appert, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, écoutez, c'est très simple, moins un produit est cher, plus il est disponible, plus il est consommé. Donc on voit bien que l'économie nous rattrape. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, d'abord, c'est une vue de l'esprit. Il se trouve que, de formation, je connais bien les criminels. Ils vont pas abandonner un marché comme ça. Ce qui les intéresse, c'est pas le cannabis, c'est l'argent. Donc, deux choses l'une, soit ils vont essayer de casser les prix en continuant à faire comme on le fait en matière de tabac, à essayer de vendre des produits moins chers que les produits qui sont réglementés, c'est le principe de la contrebande, soit ils vont changer de marché. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels la première drogue consommée n'est pas le cannabis. Aux Antilles, la cocaïne est plus consommée que le cannabis. En Asie, c'est les méthamphétamines qui sont consommées. Personne ne se pose la question, d'ailleurs en Asie, de savoir si on ne va pas légaliser la méthamphétamine parce que c'est un produit qui est très consommé et que la prohibition n'empêcherait pas la consommation de méthamphétamine. Ces drogues sont très 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 dangereuses et dans ces cas-là, on pense que la prohibition est le moindre mal. Donc on l'utilise. La seconde chose, c'est, moi je pense que ce système de légalisation peut être envisagé, mais il va produire un autre effet. Moi, je pense que c'est pas les gendarmes qui vont réussir à venir à bout des dealers si on légalisait. C'est le marché, c'est les grandes entreprises, c'est ceux qui vont englober tout ce marché avec une chaîne de production intégrée, avec des magasins, avec une politique marketing. Et ils vont développer la consommation comme Marlboro le fait, comme British Tobacco le fait.
Donc vous préférez que ce soit les dealers qui vendent plutôt que des grands groupes?
Non, ce que je veux dire,
c'est que c'est pas ce que vous voulez dire. Mais...
Je pense qu'il est de la responsabilité de l'État de réduire la place de la drogue dans une société, des drogues dans une société. Et là, on est en train... On se posait la question de savoir, quand on n'est pas répressif, qu'est-ce qu'on est? Il y a un terme, Monsieur Soros, il est libertarien. Il est pour moins de règles, parce qu'il pense que les règles sont plus nocives que le phénomène que les règles sont censées interdire. Et donc, le marché, la main du marché, va entraîner une explosion du marché. C'est ce qui commence à se passer dans les pays qui ont légalisé. On a une concentration monopolistique de l'argent qui est consacré à la production et à la vente de cannabis. Et on peut se demander si les grands groupes ne vont pas trouver un relais de croissance à travers la distribution de cannabis.
Javier Vorquez, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait des libertariens que décrit Étienne Appert, et comment est-ce qu'on fait là aussi pour justement peut-être ne pas faire de ce cannabis légalisé un business juteux qui profiterait à des grands groupes et qui échapperait peut-être en tout cas en partie au contrôle de l'État?
Alors, beaucoup de gens qui défendent la légalisation en France, en tout cas, sont plutôt pour un contrôle de l'État, enfin un monopole, en fait, d'État du marché du cannabis, avec une forte réglementation, une interdiction de la publicité, par exemple. Enfin, disons que comme on a quand même l'expérience de l'alcool et du tabac, et que leur consommation a diminué aussi au prix d'efforts importants publics, une volonté de faire diminuer cette consommation, on peut penser qu'on ne tombera pas forcément dans les mêmes pièges et que, déjà, le cannabis ne bénéficiera pas, enfin j'espère en tout cas, de l'engouement dont ont bénéficié l'alcool et le tabac, mais aussi, en effet, des campagnes de promotion qu'on connaît pour ces deux drogues-là. Donc, clairement, l'idée de légaliser, c'est essentiellement de prendre le contrôle d'un marché qui est sans foi ni loi actuellement, et d'éviter justement la diffusion, la poursuite de la diffusion de la consommation, en contrôlant la communication, en informant aussi les consommateurs des risques qu'ils encourent, ce qui pour l'instant n'est pas fait vraiment. Au contraire, c'est vraiment, je dirais, un peu autoritaire comme politique.
Entre la pénalisation et la légalisation, il y a la contraventionnalisation, qui est un mot qui est assez compliqué à prononcer. Donc, il consiste à sanctionner l'usage, mais simplement avec des contraventions. Il n'y a pas de procédure judiciaire. Pour quelle raison est-ce que cette option-là, dont on pourrait se dire que c'est une option, voilà, qui finalement est un petit peu entre les deux pôles du débat, ne vous paraît pas satisfaisante, si j'ai bien lu votre livre, Emma Vivorca?
On ne pense pas que ça réglera le moindre problème par rapport à la consommation de cannabis.
Pour quelle raison?
Le marché restera toujours aussi libre si on va moins pénaliser les consommateurs, quoique aujourd'hui ils paient déjà des amendes. En fait, ça va systématiser la punition, en quelque sorte, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les consommateurs sont plus punis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Donc, ils vont payer des contraventions. Ça va baisser un petit peu peut-être les frais de justice et les frais policiers pour l'État. Ça va se limiter à ça. Peut-être même que le trafic va en bénéficier en réalité. Hein. Enfin, je vois pas quel problème ça va régler, si ce n'est que ça va mettre en cohérence peut-être les pratiques avec la loi qui aujourd'hui paraît totalement déconnectée de la réalité.
Passer du déni pénal à la contravention, Étienne Appert, est-ce que ça serait déjà une clarification et quelque chose une approche moins hypocrite?
Je veux dire, on évolue tous. Il se trouve que quand j'étais président de la MILT, on a proposé la contraventionnalisation. Pour des raisons politiques, ça n'a pas été fait. Il se trouve
qu'est-ce qui bloquait quand vous avez proposé ça?
c'était l'inquiétude qui aurait à laisser croire à la population que le comportement était moins grave et que c'est que l'usage des drogues n'était pas grave et qu'on baissait la garde. Je crois que c'était exprimé comme ça. Il se trouve qu'on est tous d'accord, en tout cas la plupart des gens raisonnables qui connaissent un peu le dossier, pour dire que l'usager n'a pas sa place en prison. Et déjà, c'est un gros progrès dans les discussions. Vous avez évoqué les sanctions qui peuvent être imposées. Je dirais que vraiment, sur ce plan, il y a sans doute des évolutions à faire. Et puis, quand on a évoqué la contraventionnalisation, puisque je l'ai dit publiquement, bah, j'ai entendu un certain nombre de reproches du type de ceux qui viennent d'être exprimés par le docteur Vivorca. On m'a dit, mais en fait, Étienne Appert est tellement répressif qu'il veut mieux réprimer, grâce aux contraventions, les usagers. Mais bien sûr, comme on le fait sur la route, comme on le fait à l'égard de tous les comportements dont on pense qu'ils sont dangereux pour les autres ou pour soi-même. On entend effectivement par la sanction réguler ces comportements. La contravention est proportionnée à la dangerosité de ce comportement. Et donc on pense que c'est la systématisation de la répression, d'une répression sans doute plus douce qu'elle ne l'était par le passé, qui fera que les gens changeront. Je rappelle quand même que, je le disais, 2011, 41% des jeunes de 17 ans qui ont expérimenté les drogues. On est passé à 48% en quelques années. Et je remarque qu'on est dans ce fameux discours de Nini. On ne fait pas beaucoup de prévention, on ne fait pas beaucoup de répression et on laisse les jeunes se dépatouiller avec ces addictions et ces tentations.
Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'étranger, alors avec quelques pays qui vont sur la voie de la légalisation, d'autres pays alors qui sont peut-être dans une forme de dépénalisation, mais alors avec des législations qui sont très très différentes, puis à l'autre, est-ce qu'en tout cas on peut dégager aujourd'hui, Emma Vivorca et Étienne Appert, une tendance qui serait plutôt alors du côté de la légalisation ou plutôt du côté de la pénalisation? On en est où de la réflexion à l'échelle, disons, internationale sur ce plan-là?
Je pense que globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans une impasse actuellement et que personnellement, je pense que ça ne fait pas de doute que la légalisation va gagner de plus en plus du terrain.
Vous avez senti un changement, par exemple, entre le moment où vous avez sorti votre livre, donc c'était, je crois, 2014, c'est ça, et puis 2017. Bon, il y a eu que 3 ans, mais on a l'impression que, par exemple, le débat qu'on a là et tel qu'il est aussi abordé par un certain nombre de candidats à la présidentielle n'aurait peut-être pas été possible dans ces termes il y a 5 ans seulement.
Oui, clairement, je pense que les gens débattent beaucoup plus facilement de ce sujet. Je pense que l'une des raisons, c'est quand même que certains pays ou États ont pris les devants et ont décidé de changer leur façon de faire. Donc ça a débloqué les consciences, en fait. Et puis qu'on s'est rendu compte que c'était possible et que c'était pas si dramatique que ça et que même ça se passait bien la plupart du temps. Parce que c'était juste une question d'harmonisation des règles de vie en société avec les pratiques de la société elle-même. Et que globalement, on s'en portait plutôt mieux. Même si le problème de la consommation de cannabis demeure et que ça, il faut faire, il faut continuer à lutter contre, ça c'est sûr.
Ça vaut le coup de regarder ce qui se passe à l'étranger, Étienne Appert, y compris, par exemple, ce qui sera peut-être mis en vigueur d'ici quelques mois au Canada, en Uruguay, au Colorado.
Alors, il n'est pas interdit de réfléchir. Et on peut regarder ce qui se passe. Il sera toujours temps pour ces pays de faire marche arrière. 200 pays sur la planète. Il y en a sur une main qui ont décidé la légalisation. Laissons-les faire. Mettons en place des indicateurs pour évaluer les effets de cette décision et on verra bien ce que ça donnera. Mais je pense qu'il est urgent de ne pas se presser et surtout de revenir vers la clarté du discours. Ces drogues sont mauvaises. Il ne s'agit pas simplement du cannabis, c'est les drogues de synthèse. Elles sont mauvaises surtout pour les jeunes. Donc il faut se préoccuper de cela. Il faut renforcer notre dispositif de santé. Et si on maintient la prohibition, il faut que cette prohibition soit sérieuse et proportionnée.
Est-ce qu'il n'y aurait pas d'ailleurs intérêt à ce qu'il y ait une forme de coordination au niveau, alors si c'est international, en tout cas déjà au niveau européen, pour que la législation soit peut-être un petit peu clarifié entre les différents États membres?
Alors, ça existe au plan européen. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Horizontal Drogue au niveau de l'Union européenne. Il y a le groupe Pompidou au niveau du Conseil de l'Europe. Et au niveau interministériel, il y a la MILDECA qui fait beaucoup pour essayer de concilier les aspects préventifs, les aspects prohibitionnistes et les aspects sanitaires.
Voilà, ce sont des ressources vers lesquelles je vous renvoie pour poursuivre ce débat et pour vous faire une idée peut-être plus précise de cette question. Je renvoie également vers votre ouvrage, Emma Wiewórka, La légalisation des drogues. C'est donc chez Odile Jacob. On a mis aussi en lien sur notre site les informations qui sont celles de la lutte anti-drogue. Je ne me souviens plus quel est le terme exact de cet organisme officiel. Mais enfin bon, allez sur la page du Grain à Moudre et vous comprendrez tout. Merci en tout cas à Emma Wiewórka et à Étienne Appert pour cette discussion. Vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez également la télécharger. Les podcasts, ça marche très bien. On a eu les résultats médiamétrie aujourd'hui à la fois sur l'audience et à la fois sur l'écoute différée et on est plutôt content. Merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Isolde Sicard, Louise Fuseau. Mission réalisée par Romain Masson avec à la prise de son Jean Guilhermèche. Demain, faut-il financer davantage l'enseignement privé? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20. Dans un instant, vous allez retrouver Mathilde Serrel pour Ping Pong avec au programme ce soir Mathilde.
Bonsoir, rebonsoir avec Adette au programme ce soir. Vous savez, c'est la culture sans limite. Ping Pong, le slogan, n'est pas loin de France Culture, esprit d'ouverture, tellement sans limite qu'on aura des méchants garçons, des loubards avec nous, des blousons noirs avec le photographe Yann Morvan et des Jewish gangsters avec l'écrivain Karim Madani.
Eh bien, on va retrouver des méchants garçons dans quelques instants, juste après le rappel des titres.